toujours sur la musique même, la voix dans chaque morceau, elle est assez sourde.
Ah.
Je trouve, enfin, c'est mon avis. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est juste pour suggérer? Par exemple, quand on essaye d'écouter les paroles, il y avait notamment un titre qui s'appelle Rayuela. Il commence chapitre 7, etc. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, on décroche pour la musique parce que la voix se fait assez sourde finalement.
Oui.
Comme si elle provenait d'un transistor qui est à côté de l'enregistrement de musique.
Bien sûr, bah là c'est un peu le cas parce que c'est dans le morceau Rayuela, la voix, c'est la voix de Julio Cortázar, mm-hmm. qui est un des plus grands écrivains argentins, qui a vécu à Paris d'ailleurs, longtemps, et qui est quand même mort depuis 1984, je pense, si j'ai bon souvenir. Donc on utilise en fait un enregistrement de sa voix qu'il a enregistré, des extraits de son livre Rayuela, donc le fameux chapitre 7. Et nous, on utilise souvent la voix, spécialement quand elle n'est pas chantée, c'est-à-dire quand c'est des extraits voilà, d'une source quelconque, ça peut être la radio, que ça peut être des vieux archives, voilà, un match de foot. Bon, je vais revenir sur ça parce que ça, c'est encore très particulier. Et on l'utilise effectivement de manière assez musicale. Donc ça se fond un peu dans la musique et pour vraiment oui, comprendre les paroles, on essaie quand même que ça puisse se comprendre. Mais c'est vrai qu'on met d'abord l'importance que l'ensemble soit cohérent et parfois on peut effectivement être emporté par la musique. Il faut écouter plusieurs fois pour comprendre les paroles ou sinon prendre le livre et voir le chapitre 7. Et oui, et par rapport au fameux commentateur de foot, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un échantillon d'un vrai match de foot. Ça a été fait par ce commentateur de foot qui est une vraie star. Une vraie star en Argentine, il est là depuis très très longtemps. Il s'appelle Victor Hugo Morales. Et c'est un personnage très important. Il ne fait pas que ça, c'est un personnage culturel important. Il a des émissions radio politiques importantes. Mais c'est vrai qu'il est connu comme le commentateur de foot depuis maintenant 20 ans. Il a chanté les buts de Maradona, etc., etc. C'est un peu le rêve de petit garçon de l'avoir. Et on a pu l'avoir, lui. Et il nous a fait un match de foot virtuel entre nous, les musiciens, en fait. C'est un faux match. C'est plutôt un peu une illustration de comment on fait la musique. On se passe le ball l'un à l'autre. Et bon, à la fin, il y a le goal qui se transforme en Gotan. Voilà, il a fait ça pour nous. C'était un grand honneur.
Sur scène, vous recréez une ambiance un peu de vieux film avec des tenues rétro, des projections. C'est une volonté de montrer comme ça une Argentine un peu carte postale.
Je pense, enfin, si je me permets, je pense pas que ce soit une Argentine carte postale qu'on essaie de montrer parce que on a toujours essayé.
C'est la première fois que je vous vois. David,
oui, non, mais c'est voilà, donc tu vas voir que ça ressemble pas vraiment à ça. On a toujours voulu éviter justement les clichés visuels et les codes qu'il y a dans le tango et aussi qu'il y a d'ailleurs dans la musique électronique un peu. Donc le travail vidéo qui est fait par une artiste qui s'appelle Prisca Lovejoy est plutôt qui vient plutôt de l'art contemporain, donc ça s'approche quand même plutôt de ça. Il y a beaucoup de danse même contemporaine. Tu vas voir que sur cette tournée on a beaucoup de vidéos que c'est même pas la danse tango, et même quand il y avait la danse tango on essayait de la détourner ou avoir que des fragments enfin c'est quand même une approche qui est très 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 contemporaine qui essaie d'éviter tous les clichés. Et dès le début pour nous c'était important d'avoir une scénographie. Moi j'ai toujours adoré des groupes comme Kraftwerk ou Talking Heads ou des gens comme ça qui ont essayé de se mettre en scène d'une certaine manière, avec vraiment un style. J'aime aussi le côté uniforme, donc là nos costumes, c'est une sorte d'uniforme quand même, et ça crée toute une ambiance qu'on fait. Là, il y a aussi d'autres petites scénographies, et je pense que c'est important parce que nous, on veut mettre la musique en avant, et ça garde un peu le mystère comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas, même si on a une chanteuse, mais il n'y a personne qui est la star, on va dire, la star, c'est la musique. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant, et on pense que voilà, comme ça, c'est ce qu'on peut faire le mieux.
Très bien, donc tu parlais d'art contemporain, mm-hmm. sur peut-être le relier avec vos affiches ou l'album, c'est la pochette d'album. Le corps nu revient spécialement mm-hmm. sur ce dernier album, mm-hmm. mais sur le premier par exemple, on voit la clavicule, mm-hmm. c'est aussi nu.
Oui.
Pourquoi ce choix de la nudité, c'est par rapport à la sensualité du tango?
Oui, bien sûr, c'est beaucoup lié à ça. Le tango est très très sensuel, voire plus. Il y a la fameuse phrase de que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire debout, voilà. Et Et donc, c'est très important. Il y a toujours eu ce rapport au corps, c'est important. Parce que même la danse, la clavicule, c'est un peu parce que la danse tango, on est si proche en fait que c'est ça qu'on voit, c'est là, c'est ce qu'il y a de plus proche. Par contre, sur la première, c'est un homme, c'est pas une femme, malgré les apparences. Par contre, là, sur la dernière, c'est trois femmes qui sont représentées. Et c'est aussi une idée qui, dans le concept, il y avait, si vous regardez le premier clip de ce deuxième album, qui est sur la Gloria, il y a deux jumeaux hein, qui dansent, qui représentent plutôt des titans. Et les trois femmes, ça serait des sortes de muses. Donc c'est une allégorie à un univers presque de mythologie grecque, on va dire. L'idée d'écrire les lettres avec des corps qui étaient dessinés, ça venait donc aussi de Prisca Lovejoy qui nous a fait cette pochette. On a voulu pousser le côté érotique du tango et on pensait que c'était bien que c'était fait par une femme avec cette sensibilité-là. Justement pas macho, parce que le tango argentin a ce côté très très macho. Justement, on essayait de faire quelque chose de différent.
Danser tous les trois le tango ?
Absolument pas. Non, non. Eduardo, il danse un peu. Non, je dois être juste. Il sait faire les pas des pas de base, mais ce n'est pas non plus un grand danseur. Et Philippe et moi, on ne danse pas du tout. La danse tango, c'est assez spécial. Hein, c'est-à-dire, il faut beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et on dit, en général, il faut 5 ans pour danser à peu près correctement. Pour moi, c'est un peu tard.
Alors, on va terminer cette interview sur une note un peu plus légère et un peu plus rigolote. Alors, si Gotham Project était une humeur, qu'est-ce que ce serait ?
Une sorte de mélancolie joyeuse.
Très bien. Si c'était un plat argentin ou français ?
Non, un plat suisse, non, pas trop. mais ce serait quand même plutôt entre l'Italie et l'Argentine. C'est-à-dire, l'Argentine a bien évidemment la viande. Mais là aussi le côté très italien des pâtes, par exemple ils font des ravioli où ils mettent deux sauces. Ils mettent la sauce tomate et la sauce pesto ensemble. Et après ils mélangent tout.
D'accord.
Donc ça c'est un plat aussi typiquement argentin que j'ai mangé là-bas. Donc c'est malgré tout, je pense, un plat argentin. Ou sinon un plat de spaghetti comme sur nos photos. Hein. Il y a une photo qu'on a avec un plat de spaghetti.
Et si c'était un slogan ?
Par rapport à Buenos Aires, c'est un peu comme... Il y a une énergie, comme par rapport à une ville, non ? Il y a une énergie qu'on peut trouver à New York, mais il y a aussi le cœur. Il n'y a pas la dureté.
Radio Campus. Just scratching. Bella Lou, Sandra.
Campus 103.